Repos frénétique ou individualisme grégaire, oh comme ils sont loin les verts paradis du sens et de la vérité. Moi je passe le reste de cette saison du retour dans une sorte d'hébétude. Toutes les nuits je fais des rêves de plus en plus pénibles, dont je ne conserve aucun souvenir mais seulement l'étrange certitude d'avoir été entraîné à travers une faille surnaturelle. La porte bleue du sultan, vers un autre monde peuplé de créatures sans âme ni visage, errant dans le labyrinthe de paysages incertains et mouvants, et qui paraît pourtant plus réel que celui qui m'accueille, chaque fois semblable à lui-même, à mon réveil. Et quand tu m'as arraché au sommeil cette nuit-là, en frappant à ma porte en pleine nuit, j'ai cru pendant un instant atroce m'éveiller dans le monde informe de mes rêves où je devrais demeurer dans un exil sans fin, une prison plus redoutable encore que la tienne. J'ai peur de dormir. Un soir de semaine en novembre, je sors de chez moi et descends vers le port dans l'espoir apparemment modeste mais en fait insensé de boire un verre. Les touristes sont partis. Comme tous les ans, après quelques mois de pillage, ils nous ont abandonnés au milieu d'un champ de ruines. Je suis seul sur les quais. Absolument seul. Tous les bars sont fermés, aucune lumière n'est allumée aux façades où tous les volets sont clos. Le vent d'automne fait s'entrechoquer trois barques misérables amarrées au quai du port de pêche. J'ai le sentiment d'être l'unique survivant d'une catastrophe inconcevable. Le passage de la mort noire, l'explosion d'une arme secrète qui aurait éliminé toutes les formes de vie, ne laissant derrière elle que la masse intacte, des maisons vides, les mausolées d'une ville fantôme. Quelques années plus tard, je constaterai que, pour nous, le confinement ne produisait pas plus d'effets visibles que s'il avait été décrété dans une nécropole. Pourtant, on raconte encore qu'autrefois, en des temps si reculés que nul n'en peut plus porter témoignage, des humains vivaient là. Le silence de la nuit n'était pas encore celui du tombeau. C'était le silence vibrant des braises rougeoyant dans l'âtre. Le silence des enfants endormis. Celui des corps fébriles que l'obscurité rapprochait. On raconte qu'en ces temps reculés, on put même voir un jour Haroun al-Rachid, le commandeur des croyants et son vizir Jafar, se promener dans la ville, déguisés en marchands étrangers, afin que nul ne pût soupçonner leur noble ascendance. Ils poussèrent la porte d'une taverne, où on leur servit à manger. En tendant l'oreille avec l'aide de Dieu, ils entendirent les secrets chuchotés dans les alcôves où brûlaient des bougies, les remarques grivoises échangées par de belles jeunes femmes, facétieuses et maudites, chez lesquelles ils passèrent la nuit, et dans le gémissement du vent d'hiver, ils crurent reconnaître la plainte d'un prince ensorcelé, victime de la rancune des éphrites qui les appelaient à l'aide en arrosant de larmes ses jambes de marbre froid. Et on raconte encore qu'en l'entendant Jafar, le barmécide, saisi d'une tristesse mortelle, s'isola un instant pour pleurer lui aussi sur la cruauté du sort qui l'attendait lui et tous les siens. Je sais bien que rien de tout cela n'est arrivé. Nul calife, nul vizir éploré ne visitèrent jamais nos contrées. Nos vies n'étaient pas très intéressantes. Mais quelle vie humaine l'est jamais? Et quelle vie devrait s'en justifier? La vie la plus insignifiante, la plus monotone, vaut infiniment mieux que le silence terrible de cette soirée de novembre à l'heure où mes yeux s'ouvrent sur le port et que je me sens écumé d'une rage de plus en plus incontrôlable. Oh mon garçon, sois donc ma rage. Car si nous avions pu prévoir la profondeur de ce silence, nous aurions tué le premier qui posa jadis le pied sur le rivage. Comme Ahmad ibn Abu Bakr aurait dû tuer Richard Francis Burton, et dans son demi-sommeil de phtisique les yeux jaunis par la fièvre, le sultan de Harar rêvait sans cesse que le capitaine anglais frappé sur son ordre par la lame des guerriers Gala gisait au seuil de la porte bleue qu'il ne franchirait jamais. Mais le capitaine Burton est reparti sain et sauf, et nous n'avons tué personne. Nous avons ouvert grand nos bras d'imbéciles au premier voyageur, et d'autres voyageurs l'ont suivi, et nous nous sommes retrouvés pris au piège de l'épouvantable dialectique qui nous oppose et nous lie indéfectiblement à eux dans un face-à-face de corruption mutuelle où chacun révèle les vices de l'autre en lui exhibant les siens, des vices de plus